Bonjour et bienvenue. Je suis Jeanne et vous écoutez Basilic, le podcast indépendant consacré à l'environnement et aux initiatives positives. Depuis 2017, je donne la parole à celles et ceux qui façonnent le monde de demain. Dans ce podcast, on parle d'écologie, bien sûr, d'activisme, d'entrepreneuriat, de bénévolat. Mais avant tout, on écoute. On écoute les invités nous raconter leur parcours, leurs projets et surtout leurs rêves. Je vous donne rendez-vous ici, tous les jeudis, pour faire le plein d'optimisme. Si vous faites partie des fidèles auditeurs et auditrices, n'hésitez pas à laisser un commentaire et des étoiles sur la plateforme d'Apple Podcast ou celle d'Ico Podcast. C'est la meilleure façon de soutenir mon travail. Vous pouvez aussi me rejoindre sur les réseaux sociaux, @basilicpodcast. Et maintenant, place à l'épisode de la semaine. Belle écoute à tous. Cette semaine, je reçois Samuel et Yelena. Samuel est père au foyer. Il s'occupe de son fils Gaspard, âgé de 2 ans et demi. Chaque jour, Samuel partage leur quotidien sur Instagram, sur le compte Samuel et Gaspard. Il est également l'auteur d'un ouvrage intitulé « En cuisine avec papa », qu'il a co-écrit avec Nick Cook, célèbre pâtissier sur YouTube. Dans ce livre, vous retrouverez 50 recettes sucrées à réaliser avec votre enfant. Yelena, quant à elle, est chargée de communication pour la marque française de jeux BioViva. Depuis 1996, BioViva conçoit, produit et commercialise des jeux éducatifs innovants et amusants sur la nature et l'épanouissement de l'enfant. L'ensemble des jeux sont fabriqués en France. Durant cet échange, mes invités me partagent leurs conseils pour sensibiliser les enfants à l'écologie dès leur plus jeune âge. Quels outils avons-nous en tant que parents pour éveiller leur conscience sans les inquiéter, sans les effrayer? Comment peut-on, grâce au jeu, aborder des sujets importants tels que la fonte des glaces, le tri des déchets ou encore la disparition de certaines espèces animales? Aborde-t-on suffisamment ces questions à l'école? Sensibilise-t-on suffisamment les enfants à leur environnement? Autant de questions auxquelles nous essayons de répondre durant cet entretien. Ce podcast a été enregistré dans la très jolie boutique Floem à Montpellier, où Marie et Adrien nous ont gentiment accueillis. Marie a tenu à vous offrir -20% de réduction sur l'ensemble des jeux BioViva, afin que vous puissiez vous aussi vous faire plaisir. Pour en profiter, il vous suffit de vous connecter sur le site Floem, phloeme.eco, et d'entrer le code BioViva20 avant de finaliser votre commande. J'espère que cet épisode vous plaira. Bonne écoute à toutes et à tous. Donc nous sommes aujourd'hui dans la boutique de Floem à Montpellier avec Samuel et Yelena. On va commencer par les présentations. Est-ce que Yelena, tu peux commencer s'il te plaît à te présenter?
Oui, bonjour à tous. Donc, je m'appelle Yelena, je suis chargée de communication chez BioViva. Donc, BioViva, c'est un éditeur de jeux de société à Montpellier.
Et Samuel?
Et moi, je m'appelle Samuel, j'ai 24 ans et je suis père au foyer. Je m'occupe de mon petit Gaspard qui a 2 ans et demi. Et à côté de ça, je partage un peu notre quotidien sur Instagram, le quotidien d'un père au foyer. Voilà.
Alors, il y a une question que j'aime bien poser à mes invités quand on commence un épisode, c'est s'ils ont un souvenir de leur premier geste écolo. Donc, quand ils étaient enfants ou ados ou jeunes adultes, ça dépend.
Moi, je crois que les premiers trucs que j'ai fait, entre guillemets, écolo, c'est que je randonne depuis que je suis tout petit. Mes parents, ils m'ont toujours emmené à la montagne et tout. Et on avait toujours un petit sac dans le sac à dos, un sac poubelle pour récupérer les déchets et tout, machin. Et c'est un réflexe que j'ai depuis, je pense, que je suis tout petit. Et on a toujours fait ça. Et maintenant, avec Gaspard, on fait toujours ça. Et du coup, il est... Voilà, c'est le premier truc, je crois, que j'ai fait à peu près écolo, quoi.
Donc maintenant, dès que tu vois des papiers en balade...
Ouais, on a toujours notre petit sac avec nous, dans mon sac à dos, de rando.
Et toi, Yelena, est-ce que tu as un souvenir?
Oui, moi, en fait, je suis allemande. Donc, c'est pour ça le petit accent. Et il faut savoir qu'en Allemagne, le tri des déchets, depuis que je suis toute petite, ça a beaucoup été soutenu. Donc ma mère, elle nous a sensibilisé très tôt à tout ça. Donc on avait le compost dans le jardin, etc. Et je dirais que ouais, c'est peut-être ça le premier geste que j'ai eu en étant enfant, où ma mère m'expliquait, alors ça c'est de l'emballage, on va le mettre là, et ça c'est du compost, donc on va le réutiliser dans le jardin. Et c'est un petit peu comme ça que j'ai commencé l'écologie.
Alors, avant qu'on s'intéresse à notre thématique du jour, qui est de savoir comment sensibiliser les enfants aux enjeux écologiques grâce aux jeux, j'aimerais que, Yelena, peut-être tu nous présentes la marque BioViva pour laquelle tu travailles, pour que les auditeurs comprennent bien le cadre dans lequel on enregistre ce podcast. Et comme ça, ensuite, après, on pourra en discuter et voir aussi comment Samuel, lui, dans son quotidien de papa au foyer, essaye de sensibiliser Gaspard à ces questions-là.
Alors, BioViva, on est éditeur de jeux de société. Voilà, tous nos jeux sont fabriqués en France et co-conçus. Donc, nous, on est basé à Montpellier. Les jeux sont fabriqués en Drôme provençal, donc à une centaine de kilomètres d'ici, en suivant un cahier de charge très strict pour minimiser toujours plus notre impact sur l'environnement. Et nous, en fait, nos jeux, il y a un enjeu, on va dire, écologique de sensibilisation derrière, c'est-à-dire que tous nos jeux, ils ont pour objectif de sensibiliser les enfants à l'importance de préserver la planète. Donc, c'était l'idée de notre fondateur en 1996 et c'est comme ça, en fait, que la marque a été créée. Il a créé son premier jeu, BioViva le jeu, qui, lui, avait pour objectif, effectivement, de faire découvrir la beauté du monde pour ensuite donner aux envies aux petits et aux grands de préserver l'environnement.
Tu l'as dit, c'est une marque assez ancienne qui a vu le jour en 96. À l'époque, comment est-ce que votre fondateur a eu l'idée de sensibiliser les enfants à ces questions, sachant qu'en 96, c'était déjà des questions que peu de personnes se posaient, même des adultes?
Alors Jean-Thierry, il était parti à l'époque, en 1996, en mission dans les îles. En fait, il s'était rendu compte de l'état de notre environnement et il s'est posé la question ce qu'on pourrait faire pour agir là-dessus. Il s'est rendu compte que le plus gros problème, c'était en fait le comportement humain et que c'était sur le comportement humain qu'il fallait agir pour essayer d'améliorer en fait notre relation au monde, notre relation à la nature et ensuite donner envie à tout le monde de préserver et de mieux faire attention et de mieux respecter notre nature.
Samuel, toi, est-ce que c'est la paternité qui t'a fait prendre conscience des enjeux écologiques? Ou tu le disais, tu étais sensibilisé quand même assez jeune, mais est-ce que ça s'est décuplé avec la paternité?
Ouais, complètement. En fait, moi, j'étais plus ou moins sensibilité via mes parents qui étaient assez sensibles à ça, mais pas non plus de façon extrême, et enfin, de façon en tout cas très engagée. Et quand j'ai eu Gaspard et que... En fait, j'ai retrouvé ce contact avec la nature-là via mon enfant, parce que les enfants sont tellement en contact avec la nature, en contact avec le vivant qui nous entoure, que toi, ça peut que te remettre un peu les pieds sur terre et te dire, ouais, en fait, juste sous nos pieds, il y a des trucs qui poussent, il y a des petites bêtes. Et en fait, tout ça, ça fait gamberger. Et puis, c'est via Gaspard, en fait, via ses yeux à lui, que je me suis dit, là, vraiment, il faut qu'on lui montre l'exemple et qu'on fasse notre part du taf, et que aussi lui, il voit qu'on fait cet effort-là pour que lui, ça soit normal pour lui, en fait.
Et donc, dans le quotidien, ça se traduit comment, par exemple?
Là, on a emménagé dans notre nouvelle maison, on a vraiment essayé de faire quelque chose qui se rapproche du zéro déchet. Tu vois, enfin, c'est toujours un chemin, hein, mais c'est vrai qu'on s'est débarrassé de tout ce qui était, tout ce qui était consommation de bouteilles en plastique, tous les emballages et tout ça. On est sur du vrac, on est sur... de la consommation de circuits courts, tu vois, avec fruits, légumes au marché, des trucs locaux, du bio. On essaye de faire ce chemin-là. Pour l'instant, on est bien sûr toujours en chemin. Je pense que de toute façon, on est toujours en chemin. Mais on avance petit à petit sur ça, ouais.
Et au-delà des gestes du quotidien, comment est-ce que par le jeu, tu essayes d'éveiller Gaspard? Donc tu le disais, et c'est vrai, les enfants sont hyper connectés à la nature. Comment est-ce que tu peux l'éveiller à ces questions de pollution des océans, par exemple, des déchets qu'on produit en masse, ce genre de choses?
Pour moi, il y a une grande part des choses qui passent par le fait de laisser les enfants en nature le plus possible. Enfin, moi, c'est vraiment un truc qui est super important pour moi. Et je vois Gaspard maintenant, s'il n'a pas, au moins dans la journée, un moment où on est dans la forêt, où on est dans la campagne, où on va voir... les fourmis dans le jardin, un truc comme ça, c'est super important pour lui et pour moi. Et après, dans le jeu, moi, j'essaye de lui proposer de temps en temps des activités ou des jeux où il y a cette idée-là. Alors là, il a que 2 ans et demi, donc ça peut paraître complètement utopiste, mais en vrai, je pense que dès le plus jeune âge, on peut toujours parler de ça et on peut expliquer les choses. Et il y a plein de jeux. Moi, je l'ai fait plein de fois, le jeu des petites figurines que je mets dans des glaçons, enfin, que je mets dans de l'eau qui glace, puis après, il faut juste verser de l'eau chaude pour les libérer, tout ça. Donc, tu peux commencer à parler de ça, de la fonte des glaces, des animaux, de et puis après le bien-être animal, c'est un truc aussi dans les jeux, on en parle souvent. Là, la dernière fois, j'ai fait un jeu où il y avait plein d'animaux que j'avais mis dans des petits fils, des déchets, des trucs en carton et tout. Et j'ai dit l'objectif, c'est d'essayer de libérer les animaux. Et après, on en a discuté. Alors, tu te dis peut-être qu'il comprend pas grand-chose, mais au final, moi, je pense que même à cet âge-là, il y a des messages qui peuvent commencer à être imprimés. Et c'est super important de le faire le plus tôt possible, quoi.
Oui, j'avais vu aussi que tu avais fait une sorte d'océan où ils devaient récupérer les déchets plastiques.
C'est ça. Voilà.
Et ça, c'est une façon d'éveiller des enfants qui sont assez jeunes.
Voilà, là, la dernière fois, on a créé sa petite boîte de tri. Parce que je remarquais que nos poubelles de tri et tout, elles sont immenses. Et pour lui, Moi, je trie, mais lui, il voyait pas trop. Et je me suis dit, viens, on fait une petite boîte. On a pris une vieille boîte en carton, genre boîte à chaussures. Et j'ai fait 4 compartiments dedans avec carton, verre, machin. Et en fait, il a trop kiffé déjà construire la boîte avec moi. Il l'a décorée et tout. Il a fait ses dessins dessus. Et maintenant, elle est dans sa chambre. Et quand il mange un truc ou quoi, machin, il va poser dans sa petite boîte de tri. Il est trop drôle. Bon, après, il se plante des fois, mais c'est le but, c'est que déjà qu'il sache qu'il y a une boîte avec des tris, tout ça, c'est rigolo, quoi.
Oui, donc l'idée, c'est vraiment d'inclure l'enfant dans ses gestes du quotidien, de pas du tout l'exclure, même si ça peut paraître compliqué de faire le tri.
Ouais, et puis au final, il y a plein de trucs qui sont très simples à faire, même avec les enfants, quoi. Moi, je l'amène à la déchetterie, on trie ensemble les trucs et tout. Enfin, il y a plein de petites choses comme ça. En fait, vu que je l'emmène partout, parce qu'on est tout le temps ensemble, c'est beaucoup plus simple pour moi de lui montrer comment faire que si on se voyait pas de la journée, que j'avais que 2 heures le soir pour lui en parler, quoi.
Bien sûr. Yelena, chez BioViva, à partir de quel âge est-ce qu'on peut jouer à vos jeux de société? Et les premiers jeux de société donc, qui s'adressent aux plus jeunes enfants, quelles sont les thématiques que vous abordez?
Alors, nos jeux, ça commence à partir de 2-3 ans. Enfin, c'est-à-dire, officiellement, ça va de 3 à 103 ans. Mais effectivement, Gaspard, il a déjà joué aussi à nos jeux. C'est vrai qu'avec des enfants qui montrent un intérêt, on peut commencer tout à fait un peu plus tôt déjà. L'idée, c'est pas toujours de suivre les règles à la lettre pour jouer au jeu, mais c'est surtout de faire découvrir à travers le jeu le monde qui nous entoure, de leur montrer, regarde, ici, par exemple, pour les tout-petits, c'est vrai que on les éveille surtout au monde qui les entoure. Donc, ça peut être beaucoup les animaux, bien évidemment, pour qu'ils connaissent un petit peu mieux. Donc, ils vont, par exemple, découvrir que les girafes, elles vivent dans la savane qu'elles ont des formes sur leur corps. Ou après, ça peut être aussi, par exemple, on a des petits jeux pour les éveiller au moment à table, en fait, en famille. Donc, ils vont découvrir la fourchette, le couteau, mais aussi donc le miel, le lait, pour essayer de comprendre aussi d'où vient le lait, d'où vient le miel, etc. Donc, c'est des petites choses qui, dès très jeunes, ils peuvent découvrir en jouant, mais aussi à travers plein d'autres activités, en leur faisant découvrir ça au quotidien. Voilà.
Samuel, j'ai vu que toi, éveiller Gaspard et puis aussi pour assumer pleinement ton rôle de papa au foyer, tu avais des semaines thématiques. Comment est-ce que ça fonctionne?
En fait, c'est à double utilité. C'est que la première utilité, c'est pour moi de me cadrer dans ce que je lui propose, parce que finalement, c'est beaucoup de travail d'essayer de proposer des choses à l'enfant. Alors, je suis partisan quand même du jeu libre et du maximum de laisser l'enfant faire ce qu'il a envie de faire, mais j'essaye quand même de lui proposer des choses pour essayer d'aller plus loin, surtout en essayant de suivre ses intérêts du moment. Après, en fait, je me dis, voilà, là, en ce moment, par exemple, Gaspard, il est fan des dinosaures. Ça fait 2 semaines qu'on est que sur du dinosaure et qu'on fait, en fait, c'est quasiment tout le temps des activités qui sont trouvables sur Internet, tout ça, machin. Mais juste après, à la place de le faire avec des fruits, je le fais avec des dinosaures ou des trucs comme ça, mais ça me demande un peu plus d'organisation, mais au final, ça me permet après de passer le reste de la semaine quand même beaucoup plus facilement. Le week-end, je prépare mes trucs, mes activités, je regarde un peu le matériel dont je vais avoir besoin, tout ça. Et après, dans la semaine, généralement, chaque jour, je lui propose une activité préparée à l'avance, entre guillemets. Après, on fait que du jeu libre et une sortie en nature avec les copains. Voilà, c'est comme ça qu'on s'organise.
Et on pourrait imaginer, pour les parents qui travaillent toute la semaine, décliner ça au week-end, par exemple, et avoir un week-end thématique.
Un petit week-end thématique avec une activité, une sortie en rapport avec la thématique, c'est déjà super. Puis après, moi, je pense que le plus important, c'est de suivre l'enfant dans ses envies, dans ses volontés, mais on peut toujours proposer, voir. Et puis si ça va pas, moi ça m'est arrivé de lui dire cette semaine on va faire genre les oiseaux. Il m'a regardé, il me fait non. non, moi je veux faire la savane. Ok, on fait la savane, hein. On s'adapte, quoi.
Est-ce qu'il y a des jeux de société que tu utilises, alors BioViva ou autre, pour jouer avec Gaspard sur ces questions d'enjeux écologiques?
Il y a plein, on joue beaucoup, on a pas mal de jeux, particulièrement sur les, il y en a un de BioViva sur les fruits et légumes avec les petites cartes et les petits cartons là, qu'il aime bien. Et tu peux trier par saison, si je dis pas de bêtises, et ça, il aime bien. Surtout que ça, c'est un truc qu'on aime beaucoup, le côté saisonnalité des produits, tout ça. Après, de BioViva, il adore, mais je sais pas s'il y a vraiment un lien avec l'environnement, mais en tout cas, je trouve qu'il a beaucoup de lien avec la connaissance du corps et tout ça. C'est le... lui, il appelle ça l'hippopotame, mais j'im animaux, ouais, voilà. Parce que c'est un hippopotame sur la... ouais, voilà. Et celui-là, il adore, on y joue. D'ailleurs, des fois, je lui dis, j'en ai marre de jouer à ce jeu. Parce qu'en vrai, c'est un jeu où tu dois faire plein de figures gymnastiques et tout. Et au bout de une heure, deux heures de jeu. Lui, il est encore, mais bon. Donc, il y a pas mal de jeux comme ça. Après, moi, je crée pas mal de trucs moi-même aussi. Sinon, il aime beaucoup aussi. Il y a un jeu, c'est Little Cooperation. Et c'est des animaux qui sont sur une banquise. Et il tient un pont avec six petits poteaux en iceberg, en fait. Et de l'autre côté, un igloo. Et tu jettes le dé et tu peux les faire passer sur le pont. Et après, les faire passer sur l'igloo. Mais tu peux aussi faire tomber un iceberg si tu tombes sur l'iceberg dans le dé. Et ce qui fait qu'au bout d'un moment, le pont est cassé et tu peux pas faire... Et donc ça, c'est un truc sympa parce que déjà, d'un, c'est tout le monde gagne ou tout le monde perd, ce que j'aime bien. Et de deux, ce qui est cool, c'est que t'as ce côté... ouais, t'as vu, la glace, elle peut fondre. Et si elle fond, bah, ils peuvent pas rentrer à leur maison, tout ça. Donc c'est intéressant aussi pour ça.
Oui, ça permet d'éveiller les consciences en douceur.
Bien sûr.
L'idée, c'est aussi de ne pas effrayer les enfants.
Oui, tout à fait.
Et chez BioViva, vous le faites très bien. Il n'y a pas de jeux qui font peur. Il n'y a pas du tout cet aspect un peu angoissant que peut avoir
bien sûr.
L'écologie de temps en temps. Est-ce que tu peux nous décrire un petit peu les jeux phares de chez BioViva, s'il te plaît ?
Oui, alors effectivement, on a parlé de Gym Animaux tout à l'heure, qui effectivement, lui, est un super jeu pour les enfants qui ont un peu la bougeotte. Donc, je pense que ça te va bien pour Gaspard. Et c'est vrai que ce n'est pas forcément un jeu où on va découvrir l'environnement, mais beaucoup plus aussi le corps, les mouvements qu'on peut faire. Donc, on est aussi beaucoup là-dessus. Donc parce qu'on part du principe que l'enfant, pour bien prendre soin de l'écosystème qui l'entoure, il doit déjà pouvoir prendre soin de soi, bien se connaître lui, bien connaître aussi les personnes qui l'entourent, pour ensuite pouvoir aller plus loin et préserver l'environnement. Voilà. Après, sur nos jeux phares, donc effectivement, il y a BioViva le jeu, on en a déjà un petit peu parlé tout à l'heure au début, donc qui est le premier jeu de la marque qui est destiné aux enfants à partir de 8 ans, où on va découvrir en fait le monde qui nous entoure, des lieux emblématiques, les animaux, plein de petites anecdotes, par exemple, sur notre planète. Et on a aussi la version junior qui s'adresse, elle, aux enfants à partir de 5 ans. Je l'ai amené d'ailleurs, je pense que Gaspard, il est encore un petit peu jeune, mais ça permet de découvrir le planisphère, de découvrir les animaux qui vivent sur notre planète. Donc, c'est un très chouette jeu aussi. Et pour son grand atout, c'est qu'il ne faut pas encore savoir lire. Donc, effectivement, c'est très sympa pour jouer avec toute la famille, mais aussi avec les tout-petits. Après, on a les jeux Définature qui sont très connus par les enfants à partir de 7 ans, où là, c'est des petits jeux de cartes qui sont très faciles à jouer. C'est un jeu de bataille, en fait, où on va donc parier sur les caractéristiques des animaux. Donc, moi, je vais par exemple parier que mon ours blanc, il va être plus lourd que ton renard polaire. Donc, je vais remporter la bataille là-dessus. Mais ce qui est très chouette, c'est que les enfants, ils mémorisent toutes ces caractéristiques des animaux. Donc, ils vont connaître leur poids, leur longévité, la longueur, la taille, la vitesse, etc. Et il y a aussi une petite pastille qui indique s'il s'agit d'un animal en voie de disparition ou pas. Et donc ça, pour les enfants, c'est juste génial parce que du coup, ils peuvent classer. Enfin, nous, on a beaucoup de parents qui reviennent, ils me disent « Mais à chaque fois, je perds au défi nature parce que mon enfant, il les connaît par cœur, les animaux. » Et c'est vrai que du coup, c'est très sympa parce que les enfants, ils mémorisent ça. C'est vraiment incroyable. Et donc, effectivement, pour finir sur les jeux phares, donc là, c'est une nouveauté que j'ai amenée aujourd'hui, je vous montrerai tout à l'heure. C'est une nouveauté, mais je pense que voilà, un jeu qui a un très beau potentiel. C'est le jeu de la famille Presque Zéro Déchet. Donc, je ne sais pas si vous connaissez le livre, peut-être, de Bénédicte Moret, qui est co-auteur et illustratrice. Et donc, on a lancé, en collaboration avec la famille Presque Zéro Déchet, le jeu correspondant au livre, en fait, inspiré du livre, qui permet de découvrir, en fait, la démarche zéro déchet en famille, en jouant. Donc, c'est un peu une autre approche qu'un livre. On peut découvrir, on va jouer tous ensemble, et on va découvrir plein d'astuces sur le zéro déchet et comment on peut l'adapter au quotidien, tout en s'amusant.
Et sensibiliser les enfants au zéro déchet, c'est un des enjeux aussi chez BioViva, un des nouveaux enjeux, peut-être une question qui se posait un peu moins en 96 et qu'aujourd'hui vous vous posez davantage.
Oui, alors c'est vrai que le zéro déchet, ça fait aussi beaucoup partie de la sensibilisation à l'environnement, puisqu'on peut faire, il y a forcément un lien entre les déchets, la biodiversité, l'écologie, etc. Donc c'est vrai qu'on avait déjà un jeu qui est très sympa aussi, un jeu coopératif qui s'appelle Playa Playa, où là on va être sur le tri des déchets, qui fonctionne très bien aussi pour les enfants à partir de 4 ans. Et c'est vrai que pour nous le zéro déchet c'est un peu une démarche. Par exemple, là on est en train d'installer au bureau un petit composteur. Là avec le Covid, depuis qu'on est tous en télétravail, donc pour l'instant on a mis en stand-by ce projet-là. Mais c'est vrai que au bureau pour nous c'est une évidence au quotidien. Et donc quand on a eu l'idée de faire le jeu sur la famille presque zéro déchet, c'était presque naturel. On s'est dit carrément il faut qu'on le fasse.
Comment est-ce que vous expliquez, alors Yelena, comme tu es allemande, ce sera peut-être intéressant aussi d'avoir ton point de vue et de comparer avec l'Allemagne, mais comment est-ce qu'on peut expliquer aujourd'hui que l'enfant il soit à ce point déconnecté de la nature, qu'à l'école, finalement, même si on aborde ces questions-là, il n'y ait pas une vraie prise de conscience qui soit faite, et que finalement, on arrive à l'adolescence avec très peu de connaissances, ou en tout cas de conscience des enjeux climatiques?
Moi, je pense qu'il y a un gros travail à faire déjà dans la famille, parce que y a beaucoup de parents qui sont peu informés sur les sujets encore, parce que tout simplement l'écologie c'est pas un sujet qui est extrêmement médiatisé non plus, ou en tout cas qui est pas médiatisé en tant que philosophie qu'on peut adopter avec des outils proposés, tout ça. C'est l'écologie, quand c'est abordé dans les médias, c'est quand même souvent très catastrophique et très pour ou contre tel truc. Et c'est dommage, parce qu'en fait on pourrait dire si vous voulez prendre ce chemin-là, tels sont les outils. Et ça, c'est très rare. Il faut vraiment chercher pour trouver ce genre d'informations. Donc déjà, dans la famille, c'est compliqué. Mais après, à l'école, moi, par exemple, j'ai aucun souvenir du CP jusqu'au bac d'avoir un jour entendu le mot écologie, environnement, développement durable dans toute ma scolarité. Vraiment, c'est pas... Enfin, je pense qu'en SVT, on a dû virevolter quelques trucs, mais franchement, c'est pas un sujet. Alors que pour moi, ça devrait même être une matière ou un sujet pas plus important, mais autant important que les maths, le français aujourd'hui. Enfin, je veux dire, moi, j'aurais préféré qu'on m'apprenne, ce que c'est un gaz à effet de serre, plutôt que ce que c'est la réaction de tel ou tel truc complètement théorique que j'ai jamais réutilisé derrière. Donc, c'est des choses qui sont pour moi très importantes, qui doivent être intégrées dans le cursus scolaire, mais en même temps, qui doivent aussi être plus médiatisé en tant qu'outil dans les cellules familiales, dans les familles, quoi.
C'est intéressant ce que tu dis sur déjà la complexité en fait qu'on a à aborder ces questions avec les enfants, parce que nous en tant que parents c'est un sujet qui peut nous effrayer un petit peu. On a beaucoup de gens qui souffrent d'éco-anxiété et c'est pas du tout une blague. Et c'est vrai que on se dit si ça m'angoisse, comment est-ce que je peux en parler à mes enfants sans les faire stresser? Et on n'a pas juste pas envie de faire stresser ses enfants, bien évidemment. Donc c'est vrai que il y a un gros travail de ce côté-là. Et moi, j'ai le même ressenti. Si j'ai un souvenir d'un exposé, mais c'était un thème libre et j'avais choisi la déforestation. Et donc, j'avais fait toute une maquette dans un grand plat à gâteau avec des couches de terre et pour la pencher comme ça. Mais voilà, j'étais en seconde. Donc, j'étais quand même déjà assez grande. Et je pense que moi, j'avais choisi ce sujet-là parce que chez moi, on en parlait aussi. Yelena, est-ce qu'en Allemagne, tu as l'impression que c'est différent? Alors, je ne sais pas si tu connais le système scolaire français, mais quel est ton ressenti, toi, en Allemagne? Est-ce que tu as été éveillée à ces questions d'enjeux écologiques assez jeunes?
Alors, je dirais que, effectivement, j'ai jamais été dans le système scolaire français, donc c'est difficile de comparer parce que je l'ai jamais vécu moi-même. Je dirais qu'on est peut-être un tout petit peu plus sensible. Après, on rencontre malgré tout les mêmes difficultés qu'en France, que, effectivement, comme tu dis, on nous apprend, bien évidemment, les maths, les langues, toutes ces choses-là qui sont très importantes aussi. Mais la nature, l'environnement, la connexion avec ça, ça passe un petit peu à côté. Je pense qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus d'initiatives qui sont très chouettes, qui se font, mais souvent, effectivement, c'est des initiatives portées par des professeurs, par des parents d'élèves, des initiatives qui se mettent en place. C'est pas encore suffisamment, je pense, intégré dans les programmes, mais c'est plus des initiatives, effectivement, portées par, ou même par par des marques. Par exemple, Milan Press avait lancé l'année dernière l'opération Les enfants pour la biodiversité. Donc, ils se sont adressés à toutes les classes de CM2 en France. Et ils ont proposé de faire un petit concours, en fait, pour les classes ont pu s'inscrire et créer un poster sur une espèce, sur la biodiversité de leur cours de récré. Et ça, c'est vrai que c'est très chouette parce que ça reconnecte tout de suite les enfants à leur entourage direct. Bioviva, on était partenaire de cette opération-là aussi. On a offert aux classes qui ont participé justement des jeux défi nature, puisque ça correspondait bien aussi au thème de la biodiversité. Et je pense que voilà, il y a de plus en plus de petites initiatives comme ça qui se créent. Mais voilà, je pense que voilà, on est au début du chemin et je pense qu'on pourrait aller beaucoup plus loin encore pour reconnecter un peu plus les enfants au monde qui les entoure.
Et pour rebondir sur ce que tu disais tout à l'heure, Samuel, je ne sais même pas si en fait dans les salles de classe, il y a des poubelles de tri à la hauteur des enfants aujourd'hui, je ne suis pas sûre.
Moi, à mon époque, c'est pas comme si j'avais 110 ans, mais moi, il y a 10-15 ans, ça n'existait pas, ça c'est sûr.
Samuel, vous, avec Léa, donc ta femme, vous avez vous êtes vraiment beaucoup renseigné sur l'éducation de Gaspard, c'est quelque chose qui vous tient à cœur. D'où ça vient cette sensibilité pour l'éducation de Gaspard, pourquoi, comment, et quelles ont été vos ressources aussi pour en apprendre davantage?
Alors, en fait, le fait est que Léa a été passionnée d'éducation et de voilà, cette science vraiment de l'éducation, bien avant d'avoir Gaspard, bien avant qu'on ait un projet de parentalité tous les deux. Mais c'était un sujet qui l'a passionné. Moi, j'étais assez intriqué dans mes études de médecine à l'époque. C'est vrai que j'étais peu sensible à ce sujet. En tout cas, je ne m'y étais pas du tout intéressé. Et en fait, à un moment dans notre vie, on a décidé de devenir parents. Gaspard est arrivé, Léa est tombée enceinte. Et à ce moment-là, moi, je me suis dit, mec, maintenant, faut que tu y ailles. Et puis, en fait, petit à petit, d'abord par des lectures. Donc, Léa, par exemple, je crois que le premier livre qu'elle m'a donné, c'était un livre d'Isabelle Filioza. Je ne sais plus lequel parce qu'elle en a écrit plein, mais voilà, c'est quelqu'un qui travaille beaucoup sur ces questions-là. Donc j'ai lu ça, après j'ai lu Catherine Guéguen, après j'ai lu André Stern, des auteurs et des personnes qui sont en tout cas très intéressées par la notion de respect de l'enfant et de la bienveillance comme moteur principal de toutes les interactions entre adultes et enfants dans notre société. Et c'est très important pour moi, et c'est vraiment cette valeur-là qui nous a guidés tout le long. Donc après, il y a plein de reportages, il y a Être et devenir, il y a le maître et l'élève, maître M-A-I-T-R-E. C'est des choses qui nous ont vraiment ouvert nos consciences par rapport au respect de l'enfant. Et je pense que ça rejoint beaucoup, et c'est ce que je dis souvent, quand on est dans une démarche de respecter son enfant et d'avoir une approche la plus bienveillante possible et la plus respectueuse de ses besoins, mais forcément, derrière ce respect de l'enfant-là, il y a aussi le respect de la nature et de l'environnement, puisque de toute façon, un enfant, il est complètement intriqué dans cette nature, comme je te disais tout à l'heure. Ils sont passionnés de ça, les animaux, la forêt, les arbres, la terre. Enfin, c'est pas pour rien qu'un enfant, tu lui mets un bac avec de la boue et il s'amuse 3 heures. C'est bien qu'il y a un truc, une connexion par rapport à la terre qui est importante. Et quand tu choisis et quand tu fais cette démarche-là, on n'est pas parfait, hein, mais quand tu es sur cette démarche-là de respecter ton enfant, forcément, ça ouvre les champs au respect de l'environnement, au respect de notre biodiversité, tout ça. Ça, c'est un truc qui est évident. Et nous, c'est comme ça que c'est par la lecture, par les documentaires, tout ça, puis après par la rencontre avec d'autres parents. Moi, c'est vrai que là, pour l'instant, Gaspard, il n'a pas du tout été en garde, en crèche ou quoi, et on se rencontre beaucoup avec d'autres parents qui sont dans le même fonctionnement. Et ça permet aussi de développer le débat, d'avancer sur ces sujets-là. Et c'est la rencontre aussi qui est super importante, je pense. Au-delà des informations théoriques, il y a la rencontre, le partage d'expériences, la discussion qui est primordiale.
Et puis passer dans le concret aussi.
Oui, bien sûr.
Votre chemin de parentalité vous a aussi mené à la DME. Et je voulais qu'on en parle. Donc, c'est la diversification alimentaire menée par l'enfant. Parce que finalement, en réfléchissant et en préparant cette interview, je me suis rendu compte que c'était sûrement l'un des meilleurs moyens de reconnecter l'enfant aux aliments qu'il mange.
Bien sûr.
Est-ce que tu peux juste nous expliquer pour les auditeurs qui peut-être ne connaissent pas encore?
Alors, la diversification menée par l'enfant, en gros, c'est à partir du moment où l'enfant il est capable de tenir assis, qu'il a la force musculaire pour se tenir assis et que donc on estime que à ce moment-là, il va réussir à régurgiter ce qui peut potentiellement rester coincé dans sa gorge, parce qu'il y a quand même des mesures de sécurité à respecter. On peut lui donner des aliments, alors pas des aliments solides, durs, comme par exemple une pomme crue ou des choses comme ça, des choses que soit on a fait cuire au four pendant très longtemps, soit des fruits bien mûrs, des choses comme ça, des petits gâteaux cuisinés mous, des choses comme ça. On peut tout à fait lui donner ça plutôt que de tout mixer. Le but de la DME, c'est de lui présenter des aliments non mixés, non mélangés, pour qu'en fait, il soit tout à fait en contact avec une texture, un goût, une couleur, d'un aliment. Et ça, c'était super important pour nous. Et on s'est régalé à faire ça. Moi, j'adore cuisiner. On s'est régalé à faire ça parce que Gaspard, bah, les premières choses qu'il a mangées, c'est des abricots, de la pastèque, enfin des trucs, des fruits, quoi. Et puis, petit à petit, il a mangé comme nous. Et en fait, nous, ça nous a ramené à des repas plus simples et plus équilibrés aussi. Et lui, ça lui a permis de définir quel goût à quel aliment. Et d'être plus connecté à ça. Et c'est pas pour rien qu'aujourd'hui, il est fan des potagers et des vergers. Et que quand il voit un figuier, il sait que c'est un figuier. Quand il voit un pommier, il sait que c'est un pommier. Et quand il voit des courgettes, il sait faire la différence entre les variétés de courgettes et tout. Parce qu'il est super connecté à ça. Parce qu'en fait, on lui a jamais donné quelque chose qui est complètement mélangé et puis qui est du coup beaucoup plus difficilement reconnaissable pour lui, quoi.
Et ça, c'est vrai que je trouve que c'est aussi un moyen. Pour les parents, les futurs parents, de bien reconnecter l'enfant au potager, au verger et à la nature. Je voulais qu'on aborde une autre question qui est celle des jeux, des magasins de jeux un peu conventionnels. Alors, je ne sais pas comment c'est en Allemagne, Yelena, tu nous diras, mais c'est quand même des magasins très genrés et où on a finalement peu d'éveil de l'enfant à ces questions environnementales et on a tout ce côté très genré. On se balade dans les allées, c'est tout est bleu pour les garçons avec des grosses machines qui font du bruit et puis pour les filles, on leur apprend à être une bonne maman à la maison. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que ça traduit de notre société aujourd'hui? Et est-ce que finalement, c'est aussi un moyen de pas prendre l'enfant, de pas considérer l'enfant à sa juste valeur? Et Yelena, après, tu pourras peut-être nous dire comment ça se passe en Allemagne, parce que ça m'intéresse aussi.
Alors, je vais commencer par l'Allemagne. Effectivement, je pense qu'on est tout à fait sur le même type de magasin. Je me rappelle encore, après ça, c'était il y a 20 ans, mais quand j'étais petite, moi, je jouais au Barbie pendant que mon frère, il jouait au Lego. Je ne sais pas comment ça se passe pour les petits d'aujourd'hui en Allemagne, mais je pense que ça reste un petit peu comme en France, la même problématique. Je pense qu'il y a des progrès qui se font quand même. Bah, chez BioViva, bien évidemment, nous, on s'implique beaucoup pour aller au-delà de ça. Enfin, tous nos jeux s'adressent tout autant aux filles qu'aux garçons. On n'a aucun jeu qui serait genré ou adressé qu'aux garçons ou qu'aux filles parce que ça ne nous correspond pas du tout. Et il y a de plus en plus d'acteurs quand même aussi dans le domaine qui commencent à s'intéresser à ça, qui s'investissent là-dedans. Il y a par exemple une charte pour une représentation mixte dans le jeu jouet qui a été signée là il y a 2-3 jours par plusieurs acteurs de la filière, à la fois par des fabricants mais aussi par des distributeurs qui distribuent via leur site. Et je pense que voilà, c'est un premier pas dans une très bonne direction parce que c'est effectivement super important, je pense, de transmettre aux enfants que tout le monde aime ce qu'il aime, tout le monde peut jouer à tout et que voilà, tout le monde est aussi capable de tout faire, que c'est pas les garçons qui sont forts en maths et les filles qui sont forts en langue ou je sais pas trop quoi.
Ouais, bah je te rejoins complètement. T'as tout dit. Après, moi, ici en France, ça me rend fou. Franchement, on va jamais avec Gaspard dans des magasins de jouets parce que déjà une fois, ça m'est arrivé quand même d'aller dans un magasin de jouets. Gaspard avait genre un an et demi, tu vois, donc il commençait à marcher, il voulait aller voir et tout. On était dans un rayon de filles et il y a un mec qui est venu nous voir, un vendeur, qui nous a dit: excusez-moi, vous êtes dans le rayon des filles avec Gaspard. Et je lui ai dit: alors? Il me dit: non, mais si vous cherchez le rayon des garçons, c'est à côté. Je lui dis: non, mais vous inquiétez pas, je pense qu'il va pouvoir jouer à la poupée aussi. Il n'y a pas marqué pénis obligatoire pour jouer au tracteur. Donc,
incroyable. Ça devait
aller. Incroyable truc de ouf. Donc on est parti. Et en fait, c'est des magasins, tu rentres, t'as garçon, fille écrit en gros sur le truc. Et moi, ça me rend fou parce que c'est à la fois symptomatique de la façon dont on sépare les genres en France, mais c'est aussi, au-delà d'être symptomatique, c'est une des causes du problème. C'est que dès le plus jeune âge, on dit aux filles: vous, c'est cuisine, en gros, globalement, c'est quoi? Cuisine, s'occuper des bébés et
ménage,
voilà. Et les garçons, c'est quoi? Construction, pistolet. Donc en fait, c'est terrible pour les filles parce qu'on les restreint là-dedans, mais c'est aussi terrible pour les garçons parce qu'on on les oblige à adopter cette posture de l'homme. De l'homme masculin, viril, tout fort, costaud et tout. Et ça, moi, c'est un truc que je supporte pas. Donc, on essaye de trouver des magasins, voilà, tout ça, mais c'est vrai que c'est compliqué. Donc après, tu passes par Internet, tu passes par l'échange aussi. Nous, c'est vrai que on a un groupe de parents, on s'échange beaucoup de jouets, tout ça, pour essayer justement de réduire un peu ces commandes Internet, tout ça. Mais c'est compliqué, franchement, c'est compliqué. Après, il y a des jeux qui sont super. Ce BioViva, ils sont absolument pas genrés. Il y en a d'autres, mais il y a des fois où tu te demandes pourquoi marquer fille sur une boîte alors que c'est, ça n'a aucun sens, quoi. Et ça, c'est vrai que c'est terrible. Et puis moi, j'essaie toujours de dire à Gaspard, écoute, tu prends ce que tu veux. Et c'est un enfant qui a beaucoup le choix dans sa vie. Et c'est super important pour moi qu'il sache qu'il aura toujours le choix de tout faire, de s'habiller comme il veut. T'as volé ça. Et donc, c'est super important pour moi, c'est super important pour Léa. Et c'est pas pour rien que ces questions-là, elles émergent aujourd'hui. C'est aussi parce qu'il y a cette génération qui commence à prendre conscience de ça. Et pour moi, là, notre effort à faire, c'est pour eux, pour nos enfants, de leur dire, vous faites ce que vous voulez, vous êtes qui vous voulez. Et si vous avez envie de jouer avec la poupée, alors vous êtes un garçon. Et si vous avez envie de jouer au tracteur, alors vous êtes une fille, c'est OK. Et ça, c'est super important. Je pense que c'est un des trucs les plus importants qu'on doit dire à nos enfants aujourd'hui.
Je pense qu'on est à un vrai tournant et une vraie prise de conscience, ouais. Que ce soit sur ces questions de genre, sur ces questions d'écologie. Et quand moi, on me dit oh, « Jeanne, t'es écolo, mais t'as eu un enfant », j'ai toujours envie de dire « Mais non, mais c'est cette nouvelle génération qui va transformer le monde de demain ». On les entend d'ailleurs, ils sont en train de faire des plans. Yelena, est-ce que vous avez des nouveautés prévues chez BioViva ? Donc, tu parlais du jeu avec la famille Zéro Déchet. Est-ce qu'il y a d'autres choses, d'autres thématiques vers lesquelles vous aimeriez aller ?
Alors oui, effectivement, là, la grosse nouveauté de ce mois de septembre, c'est effectivement le jeu de la famille Presque Zéro Déchet. Il y a une deuxième que je n'ai pas amenée aujourd'hui, mais j'aurais dû parce que Sam Gaspard est passionné de dinosaures. Et c'est un jeu sur les dinosaures qui s'appelle Définature. Donc, c'est un jeu de plateau de notre collection Star. Définature, le grand jeu dinosaures. C'est un jeu très sympa parce qu'en fait, on va découvrir la dérive des continents au fil des différentes époques des dinosaures. Lui, c'est une nouveauté aussi. Et après, voilà, pour donner une petite idée sur l'année prochaine, on a de beaux projets. Donc, effectivement, on a toujours des nouveautés dans nos collections Star, Définature, Énigme, etc. Mais on aura aussi des jeux un peu plus sur le climat, sur l'éveil à la planète, des jeux très familiaux aussi, qu'on pourra jouer même aussi entre amis, qui, je pense, vont être très sympas, qui vont sortir en mai 2021. Et on a déjà fait des petits tests au bureau en équipe. Et c'est vrai que je pense que ça se présente très bien pour le futur, pour les jeux à venir.
Et je rappelle juste pour les auditeurs que c'est des jeux qui sont fabriqués en France. Tu l'as dit au début de l'épisode, mais que tous vos jeux sont fabriqués dans la Drôme ou en France. Donc, ça reste très local. Et je voulais juste ajouter quelque chose que peut-être certains auditeurs ne connaissent pas, mais il y a toujours dans toutes les villes des systèmes de ludothèque où on peut louer des jeux, on peut en emprunter, on n'est pas toujours obligé d'en acheter. Et c'est pas parce que là, on écoute cet épisode que vous avez besoin d'acheter tous les jeux. On peut les louer.
Il y a aussi une application qui s'appelle le Grenier Ludique. Donc, ils viennent de se lancer, mais c'est très sympa puisqu'ils font de l'échange de jeux et de la vente d'occasion de jeux de société. Donc, c'est assez spécialisé, mais c'est une super application. On avait fait un petit partenariat avec eux parce qu'ils sont aussi intéressés par logique quand ils font de la location et de la vente d'occasion. Ils sont forcément aussi engagés intéressés par l'environnement. Et donc, c'est une application très sympa. Effectivement, je pense que ça vaut le coup d'y jeter un coup d'œil.
Eh bien, écoutez, je pense qu'on a fait le tour de ces questions d'enjeux climatiques et d'enfance. Samuel, toi, tu viens de sortir un livre de cuisine. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu ?
Alors, c'est un projet qu'on a commencé l'année dernière avec mon ami Nicolas, donc, qui est sur YouTube, qui s'appelle Nicook. Et sur Instagram, Nicook YouTube. C'est un ami qui vit en Corse. Et en fait, lui, il est pâtissier de formation. Il s'est lancé sur les réseaux sociaux et on s'est rencontrés via les réseaux sociaux. On est devenus très proches. Et en fait, on s'est dit, mais il faudrait qu'on allie nos deux passions et compétences, c'est-à-dire toi, la pâtisserie, et moi, la parentalité, l'expérience de père au foyer que j'ai, même si elle est faible.
Sachant qu'avec Gaspard, tu fais beaucoup, beaucoup de cuisine et de pâtisserie.
Sachant qu'en cuisine, en fait, Gaspard, matin... Il prépare le petit-déj avec moi, le midi, il fait le repas. Enfin voilà, il cuisine toute la journée. Et donc, on a créé ce livre de cuisine qui s'appelle « En cuisine avec papa », qui est un livre de cuisine à faire avec son enfant, mais qu'on peut aussi faire seul si on n'a pas d'enfant. Il n'y a aucun problème. Et c'est 50 recettes qui sont simples à faire avec les enfants, mais qui sont toujours un petit... Il y a toujours un petit truc original, une petite saveur à découvrir, un petit twist original. Et on a voulu faire ce livre... pour que les parents réalisent qu'en fait la cuisine ça peut être aussi un jeu avec les enfants et imprégner tout ça d'une volonté de prise de conscience écologique. Alors notre livre il est séparé en saisons pour essayer de respecter au maximum la saisonnalité des produits. On a essayé de faire avec des fruits les plus locaux possibles et pas prendre 50 recettes de fruits exotiques. On n'utilise aucun sucre raffiné dans nos recettes. Et en plus de ça, on a rajouté à chaque saison des activités pédagogiques autour de ces questions-là, autour de la question de qu'est-ce que c'est un fruit, comment ça pousse une plante. Il y a les deux fameux jeux polaires là, que j'aime bien faire avec Gaspard qui sont dans le livre aussi. Et puis, on a aussi rajouté quelques petites doubles pages sur la parentalité, sur l'accompagnement des enfants. Donc, c'est un livre que je trouve assez complet, dont on est vachement fier, qui est sorti il y a un petit mois maintenant, qui marche bien. Donc, on est super contents. Et voilà, en plus de ça, on a mis des petites recettes spéciales pour Halloween, pour les fêtes, tout ça, pour avoir ce côté ludique et vraiment s'amuser avec la cuisine. Le message principal, c'est la cuisine, ça peut être un moment fun avec les enfants. Et au-delà de la cuisine, on peut aborder d'autres sujets comme l'écologie et comme voilà, le circuit court, le local, tout ça.
Bien sûr, et puis ne pas gâcher, c'est hyper important aussi.
Ouais, il y a à la fin de notre livre, on a aussi toute une partie sur faire ses ingrédients soi-même. Donc plutôt que d'acheter ton beurre de cacahuète, bah, tu peux le faire toi-même. Tu peux réutiliser l'okara du lait d'amande. Quand tu fais ton lait d'amande, il reste une petite poudre d'amande. Ça, tu peux en faire un gâteau. Il y a plein de choses comme ça dans ce livre et on en est super fiers.
Super. Eh bien, écoutez, merci beaucoup à tous les deux. C'était très intéressant. J'indiquerai tous les liens utiles dans la barre de description. Et puis, à bientôt.
Merci beaucoup.
Merci, à bientôt.
Et voilà, cet épisode est déjà terminé et j'espère qu'il vous aura plu. Comme d'habitude, vous pourrez retrouver l'ensemble des liens utiles pour suivre l'épisode dans la barre de description, ainsi que le code promo offert par Marie et Adrien. C'est l'occasion de commander les jeux BioViva à prix réduit. N'hésitez pas à partager cet épisode à votre entourage ou à nous taguer sur les réseaux sociaux, que ce soit moi, @basilicpodcast, Samuel, @Samuel et Gaspard, ou bien BioViva. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode, et d'ici là, prenez soin de vous. À très bientôt !